Voilà, bonjour à tous, amis de Cavaillon. Une salutation de la part de l'église d'Istres, des frères en Christ. Merci pour cette invitation. Et je vais vous donner une prédication que j'ai faite en début d'été, en fait. Le sujet était libre. Souvent, nous faisons des séries bibliques, un livre de la Bible. Mais il y a des moments aussi, nous faisons des thématiques et des moments un petit peu plus libres. Et là, j'ai été interpellé par un livre. Donc, le titre de cette prédication, ça s'appelle « Le bonheur est en Dieu ». Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alors, on sort de la période estivale, mais ça a été bien pour tous, je pense, même si certains doivent travailler un peu, mais quand même, on a normalement un temps de repos. Et c'est bien de rompre avec notre rythme quotidien, nous reposer après une année bien chargée. Et parce que quand les congés arrivent, on peut enfin retrouver tous nos proches, la famille, et passer des bons temps, des temps souvent simples, mais riches en relations. Mais quand on a du temps pour réfléchir, eh bien, c'est aussi l'occasion de faire un bilan sur l'année passée. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a réussi? Qu'est-ce qu'on a manqué? C'est au niveau personnel, au niveau de l'église, etc., au niveau professionnel. Alors, nous allons lire, dans quelques instants, quelques versets qui a été écrit par un homme qui se posait des questions sur le sens de sa vie et qui va tirer de son expérience des enseignements qu'il va coucher sur le papier pour nous. Alors, ce livre a été écrit par un sage, le Kohélète. Le Kohélète, ça veut dire celui qui rassemble, celui qui préside, celui qui est un orateur. Pendant longtemps, les biblistes ont pensé que l'auteur de ce livre, de l'Ecclésiaste, c'était le roi Salomon, car beaucoup de traits qui sont décrits font penser à lui. Il était extrêmement riche, il a fait des grands travaux, il avait un grand nombre d'épouses et de concubines. Et puis, la sagesse de Salomon est proverbiale, elle est bien connue. Et de plus, le livre présente l'auteur comme si c'était l'un des fils, un des descendants de David, du roi David. Or, Salomon était un des fils de David. Cependant, à plusieurs reprises, le même auteur parle du sage à la troisième personne du singulier. Or, dans tous les autres écrits de Salomon, que ce soit pour le Cantique des Cantiques ou les livres des Proverbes 1, 10 et 25, eh bien, Salomon dit, voilà, c'est moi Salomon qui ai écrit ces choses. Alors, des spécialistes de plus en plus nombreux pensent que l'auteur fait en quelque sorte parler le roi Salomon, qu'il essaye de présenter les pensées du roi ou de donner l'impression que c'est le roi Salomon qui s'exprime. C'est une sorte de procédé littéraire qui présente un homme quasiment idéal dans notre livre. Eh bien, si cet homme idéal a échoué dans tel ou tel domaine, alors tous les autres, nous tous, nous échouerons de même. Alors ce que dit cet homme a d'autant plus de poids. Écoutons-le. Nous allons lire maintenant une partie du chapitre 3, les versets 1 à 16. L'Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le soleil. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher le plant. Un temps pour tuer et un temps pour soigner les blessures. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'en abstenir. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour conserver et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour recoudre. Un temps pour garder le silence. Et un temps pour parler. Un temps pour aimer. Et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. quel avantage celui qui travaille retire-t-il de la peine qu'il se donne? J'ai considéré les différentes occupations auxquelles Dieu impose les hommes de s'appliquer. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Aussi ai-je conclu qu'il n'y a rien d'autre qui soit bon pour lui que de jouir du bonheur et de se donner du bon temps durant sa vie. Car si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, c'est un don de Dieu. Je sais que tout ce que Dieu fait demeurera toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et Dieu l'a fait ainsi pour qu'on le révère. Ce qui est aujourd'hui a déjà été dans le passé, et ce qui sera dans l'avenir a déjà été. Et Dieu fait revenir ce qui a disparu. Alors, pour creuser un peu la pensée de notre auteur, je vous propose un plan en trois parties. Nous allons voir tout d'abord que la vie de l'homme est remplie de circonstances qui s'opposent à notre vie, et sans que nous puissions rien y faire. Nous verrons ensuite que Dieu conduit toute chose vers le beau ou le meilleur. Et enfin, nous réfléchirons, au vu de la fragilité humaine, nous réfléchirons à savoir si le bonheur est possible pour l'homme. C'est une grande question, n'est-ce pas? Alors d'abord, la vie de l'homme est remplie de circonstances qui s'opposent sans qu'il puisse rien y faire. Il y a un temps pour toute chose. Je me suis toujours demandé pourquoi ces 9 premiers versets de ce chapitre 3 de l'Ecclésiaste étaient aussi connus dans le monde entier. Ce texte est composé d'une affirmation initiale suivie de 14 paires de contraires. C'est un procédé littéraire qui procure un choc à nous lecteurs. On a l'impression de voir, je ne sais pas, plusieurs d'entre vous, vous aviez les yeux fermés pendant que je lisais. Et je pense que vous êtes touchés par ce texte. On a l'impression de voir toute une vie défiler en quelques secondes avec ces paroles. Et l'auteur fait très fort puisqu'il touche des domaines que tout homme a vécu. La naissance, le deuil, la guerre, les rires et les pleurs, etc. Les thèmes abordés par l'auteur nous touchent et nous plongent dans nos souvenirs. Ces thèmes ont une résonance profonde, ils exacerbent nos sentiments et nous ramènent à un vécu peuplé d'émotions fortes. Et pour nous en convaincre si besoin, je vous propose de commenter quelques-unes de ces paires. D'abord, le thème de la naissance et de la mort. La naissance est sans doute l'un des moments d'émotion les plus forts dans une vie, que ce soit pour la maman et même le papa. C'est précédé d'abord de 9 mois de tension, d'interrogation, de bouleversements physiologiques et corporels pour madame. Il y a la préparation de la venue de cet enfant, la chambre, les habits, etc., le choix du prénom, qui monopolise pour un temps les parents. Et que dire des fameuses nausées des 3 ou 4 premiers mois, des jambes qui gonflent, mesdames, des sensations de chaleur, de l'inquiétude qui augmente à l'approche de l'accouchement. Que dire des moments de souffrance de la femme, des contractions, du moment de l'accouchement lui-même? C'est une sorte de mélange d'angoisse, de tension et d'une attente qu'on dirait qu'il ne va jamais se terminer. Et que dire de la vision de ton conjoint qui souffre sans que tu puisses rien faire, ou si peu? Bref, lorsque notre auteur dit « il y a un temps pour naître », eh bien il y a un flot de souvenirs et d'émotions qui jaillissent comme une source. Que peut-on dire de la mort? Qui n'a pas perdu un proche, vécu la séparation due à la mort? Une déchirure qui n'a pas pleuré en silence sans pouvoir contrôler ses larmes. Alors justement, l'auteur évoque aussi les larmes. Dans le thème suivant, il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Et ces deux thèmes opposés, apparemment, nous montrent de très forts sentiments, mais ils ne sont pas complètement positif ou négatif. Nous pleurons parfois à cause d'une tristesse particulière ou d'une douleur, mais il vous est sans doute arrivé aussi de pleurer de joie, n'est-ce pas? De soulagement, ou simplement parce que nous revivons un événement qui nous a touchés et qui revient en nous à la surface. Je partageais récemment avec mon épouse ma sensation après avoir lu le livre d'une romancière qui s'appelle Virginie Grimaldi. Elle est très connue, je vous la conseille. Elle est auteure de romans à succès en France, et je lui disais qu'elle m'énervait, cette auteure, parce qu'elle arrivait à me tirer des larmes. Comment ne pas être surpris quand un écrivain, au détour de quelques phrases, provoque en vous un émoi aussi puissant qu'inattendu? C'est la magie de la lecture, n'est-ce pas? Et c'est parce qu'il touche quelque chose de sensible. Quant au rire, eh bien, je me rappelle avoir entendu de nombreuses fois sur les ondes combien il était bon de rire au moins 5 fois par jour. C'est comme prendre les 5 fruits et légumes, vous savez. Ça améliorait normalement la santé. Mais si le rire a tant de qualités, il peut être aussi un grave défaut s'il sert à se moquer de quelqu'un, d'un collègue de travail par exemple, ou s'il arrive au plus mauvais moment. Un autre thème qui m'a fait réfléchir aussi, mais on pourrait tous le prendre, je pense que vous auriez tous des choses à dire sur ces thèmes avec les opposés. Il y a un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Depuis 1945, c'est-à-dire depuis plus de 75 ans, la France a eu le privilège de ne pas connaître de conflits armés ou de guerres civiles sur son sol. Nos enfants ont parfois du mal à réaliser cela, parce qu'ils n'ont jamais été impactés directement par la guerre. Moi-même, je ne l'ai pas été d'ailleurs. Le 14 juillet dernier, j'ai regardé le fameux défilé national à la télévision. Un ami participait, j'ai voulu l'encourager, le féliciter. Et ce qui m'a impressionné après le moment traditionnel, le défilé, et le chant de notre hymne, la Marseillaise, c'est que le chef d'État, ainsi que les membres de l'état-major de nos armées, se sont rendus à une tribune, juste à l'avant, à droite, la tribune des veuves et des orphelins, pupilles de la nation, pour leur parler et surtout pour les écouter. Que ce soit les membres de l'armée ou de la sécurité publique, la police ou la gendarmerie, chacun de ces corps d'État paye chaque année un lourd tribut pour nous apporter la paix et la sécurité. Et je me suis dit, est-ce qu'on est sensible à de tels sacrifices? Voilà ce que peut nous évoquer un temps pour la guerre et un temps pour la paix. L'Ecclésiaste rappelle dans le même ordre d'idées, au verset 3, qu'il y a un temps pour tuer et un temps pour soigner. Tuer quelqu'un, chers amis, à la télévision, ça paraît simple. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'on tue quelqu'un, qu'on ôte la vie à quelqu'un? Et je me suis dit, comment imaginer qu'un militaire qui tue, même si c'est dans le cadre de son travail, qui tue un ennemi, eh bien que ça n'ait aucune conséquence mentale pour lui. Et pourtant, ces hommes et ces femmes, par vocation, essayent de vivre et acceptent de vivre dans la peur, sur le théâtre d'opérations où ils se rendent, acceptant parfois d'être obligés de tuer pour défendre leur vie, pour défendre notre pays. La paix est un trésor à protéger. Alors voilà, je vous ai décrit quelques paires d'opposés à travers ces différents thèmes, mais vous aussi, vous avez sans doute reçu au détour de la lecture d'une de ces phrases, vous avez reçu quelque chose pour vous, qui vous a rappelé quelque chose que vous avez vécu. Ces versets nous parlent de la vie, de notre vie. Et si nous sommes sensibles à ces versets, c'est parce que nous nous rendons compte qu'il y a des vicissitudes dans la vie humaine. Nous savons par notre expérience que nous pouvons avoir des accidents graves, que notre vie peut être bouleversée en un instant. Ces tranches de vie mettent finalement l'accent sur la fragilité de notre vie humaine. Dans notre vie, il y a du bon, il y a aussi du mauvais. Alors, quel est le sens de tout cela? Eh bien, notre deuxième partie met l'accent vers notre Créateur. Nous ne sommes pas seuls. Dieu conduit toutes choses vers le beau, le meilleur. Il maîtrise le temps et les circonstances. Et nous, hommes, malgré notre conscience de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre tout ce que fait Dieu, hein, parce que nous sommes très limités. Toute l'histoire humaine, avec ses hauts et ses bas, pourrait nous faire oublier l'essentiel. Il existe un Dieu souverain sur toute chose. La Bible l'affirme. Notre bateau semble être sans gouvernail parfois. Et c'est oublier que c'est Dieu qui est à la manœuvre. Il est le grand capitaine. L'homme, en quelque sorte, n'est qu'une sorte de spectateur dans cette vie, c'est ce que dit l'Ecclésiaste. Un observatoire de l'histoire et des événements qui se passent devant nos yeux. Nous ne pouvons que constater le résultat. Et nous ne pouvons si peu agir sur les événements, ni comprendre la finalité de ce qui se passe devant nous. C'est un petit peu comme si nous regardions le dessous d'un ouvrage de broderie. Vous voyez comment c'est, mesdames, surtout les dames, hein. Quand on regarde ça, ça semble complètement désordonné. Les fils se croisent, se chevauchent, sans qu'il y ait de forme ou de beauté apparente. Mais lorsqu'on retourne l'ouvrage, on voit la beauté, l'ordre, l'intelligence. Alors un jour, nous comprendrons tout ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui, si Dieu ou son Fils décide de nous le révéler. L'auteur souligne par conséquent les limites de l'homme. Cependant, vous avez sans doute noté dans notre texte que l'homme a la conscience de l'éternité. C'est un verset très connu aussi. Et cela uniquement parce que Dieu a implanté en nous cette capacité de conscience de l'éternité. Mais c'est à peu près tout. L'homme est incapable de comprendre le sens de chaque événement et encore moins de prévoir son avenir. Est-ce que c'est désespérant ? Eh bien, je dirais non, pas du tout. C'est ainsi, c'est tout. Nous sommes ses créatures, nous devons accepter ce statut et rester à notre place, car c'est Dieu qui a prévu nos limites et il a bien fait. Rappelons-nous ce qu'il avait dit au jardin. Il fit l'homme et il dit, c'est bon, c'est bon. Il a agi ainsi selon sa sagesse. Cependant, ce fameux sens de l'éternité qu'il a implanté en nous nous permet de rechercher de manière active notre Créateur. Selon notre auteur, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dieu a un plan. Alors nous ne comprenons pas le plan d'ensemble, mais il a quand même un plan particulier que je dirais pour l'essentiel qu'il va nous dévoiler. Il ne nous laisse pas non plus tâtonner. Dieu ne demande pas à des mystiques de rentrer en extase pour communiquer avec lui. Il ne sélectionne pas des initiés, des élites pour régner sur le monde. Dans ce livre de la Bible, nous avons des Bibles ici, eh bien, Dieu se révèle à l'homme, Dieu se révèle à nous. Il révèle l'essentiel, le sens de la vie humaine, qui il est. Le problème du péché, c'est-à-dire de la chute originelle, on en a parlé il y a quelques instants. L'incapacité pour l'homme de se sauver tout seul. Il montre qu'il a envoyé un serviteur pour permettre, grâce à sa mort violente, que l'humanité puisse se réconcilier avec lui. Il révèle enfin ce qu'il a prévu après notre mort, pour l'être humain. Que nous puissions vivre éternellement avec lui ou éternellement sans lui, suivant les choix que nous aurons faits durant cette vie. Alors, que faire ? Durant cette vie mouvementée et ces événements sur lesquels nous n'avons pas de prise, devons-nous nous sentir un peu désarmés ou angoissés ? L'Ecclésiaste ne l'est pas. Il est réaliste, certes, mais il reste très positif. Si vous lisez ce livre, vous serez surpris. Il trouve des choses bonnes lorsqu'il se tourne vers Dieu. La question que l'on peut légitimement se poser, c'est malgré toutes ces incertitudes de la vie humaine, nos fragilités, est-ce que finalement un bonheur, ou le bonheur, est possible pour l'homme ? C'est notre troisième partie. Alors, au chapitre 2, que nous n'avons pas lu, eh bien, le sage dit avoir tout essayé. Aujourd'hui, on dirait, il a fait des voyages, il a rencontré des femmes, il a été riche, il a fait des grandes constructions, il a tout testé. Tout ce que l'homme peut vivre et peut faire. Eh bien, après avoir fait tout ça, il a constaté qu'il trouvait pas le bonheur. Mais il apporte dans ce chapitre 3 l'élément qui fait la différence. Le bonheur est possible, selon lui, dans certaines conditions. Mais avant de dire comment c'est possible, on peut se dire qu'est-ce que c'est le bonheur? Ben oui, c'est la question de base. Pour beaucoup d'humains, le bonheur, c'est une quête incessante. On n'est jamais heureux, finalement. On est heureux un moment, mais après, il nous manque quelque chose. Et souvent, ça passe par une aisance matérielle. Le spirituel est peu considéré et parfois jugé complètement inutile. Je ne sais pas si vous connaissez la courbe de Maslow ou la pyramide de Maslow, voilà, mais qui montre différents moyens de parvenir au bonheur. Il y a pour beaucoup d'êtres humains une course pour s'élever socialement, pour ressembler ou dépasser des gens qui nous côtoient, ou pour s'intégrer à un milieu plus haut auquel on n'appartient pas. L'ambition n'est pas mauvaise en tant que telle, je ne dis pas cela. Mais il est risqué de tout baser sur la réussite matérielle. Car nous l'avons vu, notre vie est instable dans ce monde. L'économie a des revers. Le Covid a fait des ravages, fauchant des vies parfois. Et des familles ont été impactées, appauvries. Un simple accident, une maladie, un revers de fortune, et patatras, nous pouvons perdre tout ce que nous avons amassé, tout ce que nous avons gagné, et nous retrouver très bas. Un exemple récent auquel je pensais, en voyant ce texte, c'est les actualités. Hein. Regardez pas trop les actualités, sinon vous allez avoir le moral à zéro. Il y a eu ces grosses inondations en Allemagne et en Belgique, il y a quelques semaines, ou le feu dévorant dans le massif des Morts, à côté de Saint-Tropez plus récemment, avec des gens qui ont tout perdu, leur maison, etc. Si nous perdons notre statut, si nous perdons nos richesses matérielles, est-ce que nous serons malheureux tout le reste de notre vie? L'Ecclésiaste, comme l'apôtre Paul bien plus tard, appelle à considérer deux réalités. D'abord, être content, c'est-à-dire vivre dans un certain contentement de ce que j'ai aujourd'hui ou de ce que j'aurai demain. Le bonheur ne dépend pas, selon eux, de nos possessions matérielles, mais plutôt de notre état d'esprit. Il ne dit pas qu'il ne faut rien faire ou mendier, que ça sera suffisant pour être heureux. Il parle d'être actif, d'effectuer son dur labeur, d'ailleurs, nous l'avons lu, et de trouver son contentement dans son activité, n'est-ce pas? Mais de trouver son bonheur et sa joie dans les circonstances qui sont les nôtres. L'avantage d'une telle compréhension de la vie et du bonheur est que l'on est heureux tout de suite, maintenant. Il n'y a pas besoin d'attendre, chers amis. Certes, il y a des hauts et des bas. Certains pourraient nous faire croire que les chrétiens ne vont toujours que de succès en succès, mais ce n'est pas le cas. Lisez ce qui est dans la Bible. Combien de fois l'apôtre Paul a-t-il pu perdre la vie? Il a été lapidé, il a été mordu par un serpent, il a été emprisonné, il a été assassiné, n'est-ce pas? Eh bien, il disait, je me contente de ce que j'ai. Quand j'ai faim, je suis heureux en Christ. Et quand je suis dans l'abondance, je suis heureux en Christ. Donc oui, je ne dis pas que c'est facile tout le temps, mais il est possible d'être heureux dans ce que l'on est, dans ce que l'on vit. Et l'Ecclésiaste veut préciser sa pensée. Il ne s'agit pas d'une méthode couée consistant à dire, comme le fait l'humoriste Danny Boone dans un de ses sketchs, je vais bien, tout va bien. Je vais bien, tout va bien. Je vais bien, tout va bien. Non, non. Il s'agit de se nourrir et de s'abreuver à la source du bonheur. Si nous comprenons ce que le Christ a fait pour nous en mourant sur la croix pour nous-mêmes, nous allons naître de nouveau d'eau, c'est le baptême, et d'esprit, parce que le Saint-Esprit vient corporellement dans le corps de chaque chrétien. Dieu va pouvoir alors se développer petit à petit, ça se fait pas en une seconde, et révéler qui il est et surtout ce qu'il attend de nous chaque jour de notre vie. Si nous apprenons à vivre une vraie relation avec lui, il va changer nos perspectives de vie. Notre bonheur sera en lui et ne dépendra plus de notre aisance matérielle. Quel privilège de vivre cela. Mais l'Ecclésiaste nous donne aussi une autre précision pour vivre heureux. Et elle me semble très importante parce que c'est notre défaut. On se regarde très souvent, chers amis, le nombril. Bien, nous encourage à nous décentrer de nous-mêmes, à pas nous regarder constamment à nos besoins, ça serait bien si j'avais ci ou si j'avais ça, et à penser que telle chose est toujours bonne. Pour arriver à ne plus se contempler soi-même, comme le faisait Narcisse, eh bien, il faut regarder ailleurs. Et regarder vers où? Eh bien, regarder vers Dieu. Tout ce que Dieu fait demeurera toujours, nous dit notre auteur. Il n'y a rien à ajouter ni à retrancher. Et Dieu l'a fait ainsi. Pourquoi? Pour qu'on le révère. J'entendais ce qui était dit ce matin de cette relation que Dieu veut établir avec nous. Dieu le Fils, Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit auraient pu se contenter de vivre ensemble. Mais Dieu a voulu créer l'homme. Pourquoi ? Pour se constituer un peuple d'adorateurs. Il veut que nous l'adorions et que nous le glorifions. Notre bonheur va donc se vivre dans l'adoration du Dieu créateur et sauveur. Et c'est pour ça que souvent, lorsque nous chantons lors du moment de louange, nous sommes si heureux que nous sommes heureux de rendre un peu à Dieu la gloire qui lui appartient. Aimer Dieu procure joie et bonheur. Il nous faut cultiver cela. Et voilà pourquoi Dieu a créé votre église, a créé mon église, a créé l'église en général, la communauté des chrétiens qui louent et adorent. Dans cette perspective, chers amis, nous pouvons dire qu'être chrétien et heureux est une sorte de pléonasme. Nous n'avons plus besoin de partir à la recherche perpétuelle du bonheur, parce que nous avons trouvé un bonheur durable, constant, pur, enthousiasmant en Christ. Lorsqu'on arrive à la retraite, on se dit qu'on va faire des choses qu'on n'a pas pu faire avant dans notre vie professionnelle. Alors, je vois qu'il y a peut-être des gens retraités ici, n'est-ce pas ? Et peut-être que vous aviez des projets pour faire des voyages, peut-être que vous en avez déjà fait. Peut-être que vous voulez en faire. Moi, ça serait mon cas. J'aimerais bien. Peut-être que je ferai ces voyages, mais peut-être que je les ferai jamais. En tout cas, si on n'accomplit pas ces voyages, chers amis, ce n'est pas grave, parce que nous ne serons pas malheureux. Notre bonheur ne doit pas dépendre de ces choses. Notre bonheur dépend de Dieu, de sa bonne nouvelle, et en lui nous ne sommes jamais insatisfaits. Jésus a dit, « Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors je vous propose à présent quelques questions d'application sur ce que vient de nous dire l'Ecclésiaste. Des questions personnelles qui vous concernent. Parce qu'après tout, il faut que la parole de Dieu nous serve à quelque chose. Bien sûr, ces questions, je me les suis posées pour moi aussi. Alors, appropriez-vous cela. Est-ce que je me sens heureux en Christ? Est-ce que vous sentez heureux en Christ? Ce soir, maintenant. Je ne vous demande pas de répondre, Ai-je une vision spirituelle ou matérielle du bonheur? C'est quoi pour moi le bonheur? Si je ne parviens pas à obtenir ou à atteindre mes objectifs professionnels, est-ce que cela me rendra malheureux? Est-ce que j'arrive à vivre dans le contentement, quelle que soit ma situation? Enfin, est-ce que vous pourriez affirmer là maintenant que vous êtes heureux? Eh bien, nous en voici à la conclusion. La quête du bonheur, chers amis, n'est pas un objectif en soi pour le chrétien, car il a trouvé son bonheur en Jésus-Christ. Bien sûr, notre quotidien, les épreuves de la vie que nous avons, chacun d'entre vous, je ne connais pas votre vie, eh bien, vont faire qu'on n'aura pas toujours le smile, le sourire aux lèvres. Pourquoi? Parce que ce monde est injuste. Et pourtant, c'est dans ce monde que nous pouvons trouver notre contentement en Christ. Et ce doit être pour nous un choix assumé, un choix délibéré. Nous avons besoin de constamment revenir aux bonnes perspectives spirituelles du sens de notre vie en Christ, parce que c'est en lui qu'est le vrai bonheur. Et pour cela, je ne saurais que vous encourager à persévérer dans votre vie d'église, parce que vous pourrez ainsi partager vos fardeaux, vos soucis, vos joies. Vous pourrez pleurer avec ceux qui pleurent. Vous pourrez vous réjouir avec ceux qui ont des succès, ceux qui réussissent leur bac, ceux qui ont eu un enfant, etc. Se réjouir et être auprès de vos frères. Le diable, notre ennemi, essaiera constamment de nous retirer notre bonheur et notre joie d'appartenir à Dieu en nous accusant de péché, en nous faisant honte et en essayant de nous éloigner de Dieu. Ne nous laissons pas intimider par lui et revenons sans cesse auprès de notre Dieu. Une belle solution pour rester ferme dans la foi, malgré ce monde injuste, c'est de demeurer dans l'amour du Père et prier les uns pour les autres, n'est-ce pas? Amen. Alors, je voudrais prier pour nous. Seigneur, merci pour ce que tu as inspiré à cet Ecclésiaste, Seigneur, parce que ça parle de la vie, de notre vie. Tu vois qu'il a essayé tellement de choses, mais qu'il était toujours insatisfait. Et Seigneur, il en est arrivé à la conclusion que c'est en toi qu'est le vrai bonheur. Nous comprenons cela parce que nous comprenons que tu es un Dieu qui veut sauver, un Dieu qui veut créer cette relation, la recréer, Seigneur, la rendre belle et même la rendre éternelle. Tu veux ce peuple d'adorateurs qui va vivre pour l'éternité avec toi. Alors, je veux te remercier pour moi, Seigneur. Je veux te remercier pour les membres ici qui ont eu ce plaisir, ce bonheur de te rencontrer, de te connaître, d'avoir cette vie transformée par toi. Et Seigneur, je te prie aussi de renouveler notre vision du bonheur afin qu'on ne court pas toute notre vie après des chimères, qu'on ne perd pas de temps inutile, qu'on ne vive pas dans l'insatisfaction, mais Seigneur, nous puissions prendre exemple sur l'apôtre Paul, qui arrivait à vivre le contentement en toutes circonstances. Et Seigneur, permet de nous de rester unis les uns avec les autres, de nous encourager les uns les autres, Seigneur, quand ça va mal, pour que nous, surtout, nous ne t'abandonnions jamais, car toi, tu seras toujours là. Que toute gloire te revienne. Toi l'auteur du bonheur. Amen.